Bienvenue dans le débat « Que se passe-t-il quand la victoire détruit le vainqueur de l'intérieur ?»
C'est une excellente question.
Ouais, on a souvent l'habitude de penser la brutalité historique en termes de territoires conquis ou de frontières redessinées, des vainqueurs matériels d'un côté et des vaincus écrasés de l'autre.
C'est la vision classique, ouais.
Exactement. Mais aujourd'hui, on plonge dans une analyse d'une chronique radiophonique foudroyante de Radio Tantam Africa. Une chronique qui renverse totalement cette perspective.
Et c'est un format court qui revisite le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire.
C'est ça. Et ce qui frappe instantanément, avant même le tout premier mot, c'est le design sonore. Il y a ce battement sourd, lent, régulier en arrière-plan. C'est vraiment viscéral.
Ah, ce rythme cardiaque pose une urgence immédiate. On n'est pas du tout dans un amphithéâtre en train de disséquer un événement du passé avec, la froideur de la distance académique.
Non, pas du tout.
Ce battement agit vraiment comme le compte à rebours d'une pathologie en cours. Le narrateur a une voix très grave, très habitée.
Ouais.
Et le paysage sonore nous prévient qu'on va assister à une autopsie. Pas celle d'une époque révolue, mais bien celle de notre propre modernité.
Et c'est justement sur la nature de cette autopsie que nos lectures divergent radicalement aujourd'hui. En décortiquant cette chronique, la thèse centrale m'apparaît comme un appel d'une intimité vertigineuse.
Une décolonisation intime, vous voulez dire ?
Tout à fait. Pour moi, le texte décrit avant tout une démarche psychologique et morale. L'argument déployé, c'est que le véritable drame d'une domination, ce n'est pas seulement l'impact sur l'opprimé.
D'accord.
C'est aussi, et peut-être surtout dans ce contexte, l'effondrement éthique, la corruption de la conscience individuelle de celui qui l'exerce ou même qui la tolère.
Eh bien, je lis cette mécanique conceptuelle sous un prisme totalement différent. Bien que le mot « conscience » soit effectivement prononcé, la force de frappe de cette chronique est, selon moi, une dénonciation structurelle.
C'est-à-dire ?
Une critique des systèmes, quoi. Elle pointe l'architecture même de la violence, la façon dont nos institutions, le langage officiel de l'État et la machinerie médiatique travaillent de concert.
Pour banaliser la brutalité.
Exactement. On ne parle pas ici d'une simple somme de petites défaillances morales individuelles. On parle d'une usine de déshumanisation conçue pour fonctionner à grande échelle.
Donc, l'attention est claire. Tragédie de la conscience humaine d'un côté, ou produit d'une machinerie systémique de l'autre.
C'est bien le cœur du problème.
Alors plongeons directement dans la phrase d'ouverture de la chronique. Elle est prononcée avec une pause extrêmement calculée. Et si l'Europe, en colonisant le monde, s'était aussi abîmée elle-même ?
Une phrase très forte, oui.
Immédiatement après, le texte affirme que l'enjeu ne se trouve pas dans les livres d'histoire, mais en nous. L'argument me semble vraiment placer la focale sur la perte de l'âme.
Diff de ce terme pose les bases du traumatisme. Si une population tolère la barbarie à des milliers de kilomètres de chez elle, cette complaisance n'est pas neutre. Elle ronge l'intégrité spirituelle de cette population.
Je vous arrête tout de suite sur cette focalisation sur l'âme qui se ronge.
Allez-y.
Le texte mentionne « en nous », certes. Mais avez-vous mesuré le poids des structures qui fabriquent ce fameux « nous » Réduire cette chronique à un drame intime, je trouve que ça occulte une réalité matérielle incontournable.
Mais la réalité matérielle n'efface pas la dimension morale.
Non, mais quand le narrateur parle de puissance, même s'il demande d'en juger la conscience, une puissance historique, c'est concret, ce sont des armées.
Bien sûr.
Ce sont des codes juridiques qui organisent l'exploitation des terres. C'est une administration qui hiérarchise les vies humaines. La violence banalisée ne n'est pas parce que quelques individus se réveillent avec une boussole morale déréglée.
Vous pensez que ça vient d'où alors ?
Elle naît parce qu'un système organise, légitime et distribue cette violence à travers des canaux très officiels.
Attendez, quand vous dites architecture systémique ou canaux officiels, soyons un peu plus concrets, vous parlez de quoi là ? De l'école ? Des lois ?
Oui, entre autres.
Parce que le texte lui-même nous donne une explication très organique de la manière dont cette puissance se détruit, ce qu'on pourrait appeler un choc en retour.
Je vois où vous voulez en venir.
Et cela se passe au niveau d'une loi morale universelle, bien avant les lois d'un tribunal. Permettez-moi de faire une analogie pour expliquer la mécanique de ce phénomène.
Je vous écoute.
Imaginez deux voisins. L'un d'eux, motivé par la cupidité, décide d'empoisonner le puits de l'autre en pleine nuit.
D'accord.
Son but, c'est de le faire fuir pour s'approprier son terrain. Il verse son poison, rentre chez lui, verrouille sa porte et s'endort avec le sentiment d'avoir réussi son coup. Il se sent en sécurité.
Sauf que l'eau est partagée.
Exactement. Ce qu'il oublie, de manière tragique et mécanique, c'est que leurs deux puits puisent dans la même nappe phréatique sous la terre. En détruisant son voisin, il a chimiquement condamné sa propre source de vie. Tôt ou tard, il va tirer l'eau de son propre puits et il boira le poison qu'il a lui-même versé.
C'est une image frappante, je l'avoue.
Et c'est le processus exact que décrit la chronique. On ne colonise pas impunément. Une civilisation qui tolère l'injustice ailleurs finit toujours par l'accepter chez elle. La pathologie s'infecte elle-même, en fait.
Cette allégorie de la nappe phréatique est visuellement très forte, oui. Mais elle illustre précisément le danger de votre lecture éthique, à mon sens.
Ah bon ? Quel danger ?
Le problème fondamental avec le fait de se focaliser sur le poison bu par le voisin malveillant, sur son autodestruction, c'est qu'on efface la symétrie des cadavres.
Je ne suis pas sûr de vous suivre.
On invisibilise le fait que le voisin dont le puits a été empoisonné est mort le premier, de manière violente et tout à fait concrète. En se concentrant sur la conscience qui s'abîme, on risque de dangereusement psychologiser un rapport de domination.
Mais psychologiser n'est pas forcément minimiser.
Peut-être, mais ce rapport est avant tout asymétrique et effroyablement destructeur sur le plan matériel. On dépolitise la violence pour en faire une jolie leçon de morale abstraite. L'oppresseur n'est pas qu'une âme perdue, c'est d'abord un appareil de destruction.
Je refuse l'idée que dénoncer la corruption spirituelle revienne à dépolitiser la violence. Le texte ne disculpe absolument pas la puissance politique. Il affirme simplement que la source de cette dérive politique est spirituelle. Si on ne traite pas la maladie à la racine de la conscience, le démantèlement d'une institution ne servira à rien.
Pourquoi donc ?
Parce qu'une autre institution tout aussi violente viendra la remplacer.
Mais la maladie de la conscience dont vous parlez, elle n'est pas spontanée, elle est fabriquée par les institutions.
Fabriquée.
Oui. Et le meilleur exemple que nous donne la chronique se situe sur le champ de bataille du langage. C'est ici que l'intelligence du texte bascule vers une critique de l'infrastructure pure.
Je vois le passage auquel vous faites référence.
Écoutez bien cette affirmation, elle est assénée comme un verdict. Les mots ne sont jamais neutres. Ils peuvent masquer la violence ou la révéler. Nous ne sommes plus dans la philosophie intime, là. Le langage est envisagé comme une arme systémique.
Comment ça, une arme systémique, Russe ? Donnez-moi un exemple de cette mécanique.
Prenez le langage officiel de l'État. Le pouvoir d'oppression s'exerce d'abord en confisquant le dictionnaire, si on peut dire.
C'est-à-dire ?
Concrètement, un gouvernement ne va jamais déclarer « nous allons massacrer une population pour piller son sous-sol ». L'appareil d'État va produire des dépêches, des manuels scolaires qui parleront de missions de pacification.
Ou de maintien de l'ordre.
Voilà.
Ou de programmes de développement des ressources. Le langage sert de bouclier. Ce vocabulaire anesthésiant permet de transformer une brutalité sanglante en un acte administratif propre et légitime.
C'est très juste.
Et ce que nous dit Radio Tom Tam Africa, c'est que l'architecture de la violence se maintient parce que les structures dominantes nous imposent le lexique même, le lexique avec lequel nous sommes censés penser cette violence.
D'accord.
Votre description de la manipulation sémantique par l'État est redoutable. Mais regardez comment la chronique recadre immédiatement ce phénomène.
Je vous écoute.
Elle ne place pas le point d'origine de ces mots dans les couloirs d'un ministère, ni dans les imprimeries de l'État. La phrase exacte, c'est que la violence se joue, je cite, « dans nos mots ». Dans nos regards, dans nos silences. L'échelle utilisée est d'une intimité écrasante. Le grand mensonge systémique que vous décrivez, cette fameuse mission de pacification, ne détient un pouvoir réel que parce qu'il s'appuie sur nos consentements individuels.
Là, vous déplacez la responsabilité de l'État vers le citoyen ordinaire. C'est risqué.
Je dis simplement que le système n'est pas un monolithe abstrait qui flotte au-dessus de nous. La complicité systémique n'existe concrètement que par l'addition de nos silences à la machine à café, par exemple.
À la machine à café ?
Oui. C'est le confort pervers de choisir, nous-mêmes, d'utiliser le mot « édulcoré » fourni par l'État, plutôt que de nommer la réalité crue lors d'une conversation ordinaire. C'est nous qui détournons le regard quand l'injustice passe sur notre trottoir.
C'est vrai que la complaisance joue un rôle.
Le lexique étatique serait totalement inoffensif si le terreau de nos silences intimes ne lui permettait pas de prendre racine. C'est pourquoi la lutte se situe au niveau du microcosme.
Alors, ce recadrage sur l'individu est habile. Mais le texte ne s'arrête pas au trottoir ou à la machine à café. L'argumentaire s'élargit pour dresser un réquisitoire contre quelque chose de bien plus vaste.
Et c'est quoi cette chose plus vaste ?
L'abstraction de la violence moderne. Et c'est l'élément le plus glaçant, je trouve, le plus contemporain de la chronique. Celui qui porte sur le traitement de la souffrance.
Ah, vous parlez du passage sur l'indifférence qui transforme la souffrance en information ?
Précisément. Cette indifférence tranquille qui transforme la souffrance en simple information. C'est la preuve définitive que le propos dépasse la simple boussole morale individuelle. On parle ici du paradigme global de la communication.
On parle d'une industrie médiatique qui a développé une mécanique stupéfiante pour digérer la tragédie humaine à l'échelle industrielle. Pensez au phénomène du doom scrolling aujourd'hui.
Le fait de faire défiler des nouvelles anxiogènes sur son téléphone à l'infini sans s'arrêter.
Voilà. Expliquons le mécanisme de cette simple information. L'algorithme d'un réseau social vous présente une vidéo d'une ville bombardée d'une tragédie absolue.
Oui.
Et immédiatement après, d'un simple glissement de doigt, vous tombez sur une publicité pour des chaussures, puis sur une vidéo humoristique, puis de nouveau sur une famine.
C'est vertigineux quand on y pense.
Le format même de la plateforme nivelle la gravité de l'information. La souffrance est transformée en data, elle est monétisée pour retenir votre attention entre deux coupures publicitaires. Ce n'est pas votre silence intime qui crée ce nivellement.
C'est quoi alors ?
C'est un design d'ingénierie pensé dans la Silicon Valley. Quand la voix du narrateur affirme « c'est là que tout commence à basculer », elle dénonce une apathie à grande échelle qui est littéralement programmée par l'architecture du système.
D'accord.
L'indifférence n'est pas un échec de la conscience, c'est le produit fini et désiré de la machine médiatique.
Très bien, poussons cette idée algorithmique jusqu'au bout, si vous le voulez bien.
Allez-y.
Si l'indifférence est entièrement programmée par une ingénierie écrasante, si nous ne sommes que des rats de laboratoire conditionnés par le formatage de nos écrans, alors nous sommes de simples rouages impuissants. L'aliénation serait totale.
Face à des monopoles technologiques et médiatiques, notre marge de manœuvre est effectivement minuscule, vous ne trouvez pas ?
Et pourtant, comment expliquez-vous la conclusion de la chronique ? Elle heurte de plein fouet votre théorie de la fatalité systémique.
Ah, en quoi ?
La conclusion ne dit pas « il faut réguler les plateformes numériques » ou « il faut démanteler les conglomérats médiatiques ».
C'est vrai, elle ne dit pas ça.
L'injonction finale affirme « lire ses airs aujourd'hui, ce n'est pas regarder le passé, c'est choisir de rester humain ».
Mais l'appel à l'humain reste une forme de résistance contre la structure, non ?
Oui, mais soulignons le verbe employé. Le mot « choisir », ce mot est l'antithèse parfaite de la machine algorithmique. Il renvoie in extremis la responsabilité et le pouvoir d'action au libre arbitre de l'individu.
C'est un point intéressant.
La chronique nous dit que malgré le doomscrolling, malgré les éléments de langage de l'État, malgré cette avalanche de simples informations déshumanisantes, l'audition n'est pas obligatoire.
D'accord.
Le sanctuaire ultime de l'empathie nous appartient en propre. Face au système de l'indifférence, le texte oppose la volonté souveraine. Le rempart contre la barbarie, ce n'est pas une nouvelle politique publique. C'est notre décision intime et têtue de refuser l'anesthésie.
C'est un point de friction fascinant. Et je reconnais que l'appel au choix personnel dans les toutes dernières secondes force à repenser l'équilibre de la critique.
N'est-ce pas ?
Finalement, ce qui rend cette analyse du texte de Césaire par Radio Tam Tam Africa si intellectuellement dense, c'est la tension implacable qu'elle maintient du début à la fin. Elle navigue continuellement entre ces deux pôles sans jamais nous laisser le confort de trancher.
C'est exactement ça. D'un côté, on a le macrocosme écrasant d'une puissance qui formate l'information et le langage. De l'autre, le microcosme volatile de notre propre regard dans le miroir.
Une dialectique où le système se nourrit de nos failles éthiques et où nos failles éthiques sont en retour creusées par le système. Concrètement, l'universel sans frontières dont parle la chronique trouve son point de rupture dans le silence le plus banal de notre quotidien.
Il est indéniable que la chronique accomplit un vrai tour de force. Elle prouve de manière éclatante que relire Césaire à travers ce filtre n'a rien d'un exercice académique confiné aux années 50. Absolument pas.
C'est un scalpel pour disséquer l'actualité brûlante. Que ce soit pour analyser la désensibilisation face à la guerre en continu sur nos écrans ou la manipulation des termes politiques, le texte offre une grille de lecture vitale.
Une cloche qui sonne pour l'ici et le maintenant. La signature finale, la parole est une force, claque comme un avertissement.
Tout à fait.
C'est un miroir tendu vers notre époque, qui nous oblige à examiner nos contradictions les plus sombres.
Et nous laisserons l'auditeur se confronter à ce reflet. Faut-il d'abord mener la lutte contre la colonisation des esprits en réarmant sa propre boussole morale face à son écran de téléphone ou est-il impératif de s'attaquer d'emblée à la source matérielle en déconstruisant les structures politiques et médiatiques qui fabriquent notre indifférence à la chaîne ?
La question est vertigineuse.
Très complexe, oui. Et le texte se garde bien d'offrir une porte de sortie facile.
Tout à fait. En gardant à l'esprit cette vérité mécanique implacable sur laquelle système et conscience finissent toujours par se rejoindre. Peu importe qui a institutionnellement empoisonné le puits de la nappe phréatique, le silence docile de celui qui porte l'eau à ses lèvres est, au bout du compte, tout aussi mortel.